19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ramadan & Co, 19h-20h, on parle de sujets sérieux mais on se prend pas au sérieux avec ce soir l'OVNI qui est avec nous, Nadia Bouga, bonjour.
Bonjour Philippe.
On explique l'OVNI.
Allez-y, expliquez, puisque c'est vous qui le...
Ah non, c'est pas déposé. L'objet voilé non identifié.
Voilà.
C'est votre surnom à la maison.
C'est ça.
Pas mal. Ça vient de qui, Philippe?
Ah ben, je ne sais pas. Ça a été déposé. Ça a même été écrit dans un livre qui est paru aux éditions Grasset.
Déposé où? À l'INPI ou...
Bon, alors là, vous l'entendez, parce qu'elle peut pas se tenir. C'est Vanessa. Elle ne vous fait dormir que sur une oreille la nuit. Ça va, Vanessa?
Ben, tout va bien. Hein, pour un soir de... Je sais pas quelle heure il est déjà, je sais plus.
Oui, c'est beaucoup trop tôt pour vous, 19h.
Ça y est, c'est l'effet Ramadan qui se fait ressentir.
Maman, elle n'est pas levée à 19h.
J'ai à peine de me réveiller.
Ouais, elle termine son jogging. Steve Abdelkarim est avec nous. Bonjour, Steve.
Voilà.
Le grand manipulateur, he's back.
Bien sûr. Toujours GM.
Kamel Chekat est avec nous. Bonjour, Kamel.
Bonjour.
Grande signature du mois de Ramadan sur Beurre FM. L'homme qui murmurait à l'oreille de Barack Obama. Bienvenue. Tarek est avec nous, vice-président de l'association Life.
Salamat Pagui.
Ah, faut traduire, parce que vous avez...
Alors, on ne dit pas Salamat Pagui à cette heure-ci.
Non, là, on dit Selamat Sore.
Selamat Sore.
Voilà, ça veut dire bonsoir en indonésien. Et my ténor du barreau de Bobigny is rich, Maître Serran, bienvenue.
Bienvenue à vous aussi. Il n'y a aucune raison que vous me présentiez le dernier, donc il y a une difficulté.
Parce que c'est vous qui commencez l'émission.
Oui, non, mais d'accord. Non, enfin, je le dis, c'est pas normal.
Le ton est donné.
Ouais. Bah ouais, on demande égalité des sexes, non, égalité des sexes dans tous les sens. Hein.
On dit que le meilleur est pour la fin. Bah
oui, c'est vrai. Gentil, Vanessa. Voilà. D'accord. Je retiens Vanessa qui
vient
dit Vanessa.
Vanessa qui vient de désamorcer un conflit.
Comment désamorcer un conflit?
C'est dans ma nature.
En général, elle allume le feu. Enfin, en tout cas, elle attise des braises. Mais là, vous voyez, Maître Serran, on vous écoute.
Allez, salam alaikum, mes amis. Un nouveau jour de Ramadan est passé. Alors, je sais pas pour vous, mais je dois reconnaître, mon cher Philippe, que le Ramadan passe à une vitesse, mon pote. Tiens, j'ai même envie de vous demander. Comment vous avez vécu votre Ramadan? J'ai envie de vous demander ce que vous avez mangé hier. Je vous poserai pas la question, je vais plutôt la poser à nos camarades qui nous accompagnent aujourd'hui. Mais allez, laissons ces considérations culinaires de côté pour nous poser la seule et unique question. Qu'est-ce qui intéresse nos auditeurs aujourd'hui? C'est de quoi nous allons parler. Eh bien, aujourd'hui, nous nous demanderons si le Ramadan est compatible avec une activité professionnelle, comment allier travail, productivité, performance et spiritualité. Alors, il est certain que ton Ramadan, tu vas l'appréhender différemment en qualité de terrassier ou en qualité de star de la radio à Beurre FM tel que vous, mon cher Philippe. Je me rends compte aussi que je suis injuste, car je vous parle d'activité professionnelle. Or, nous savons tous que le travail le plus ingrat, le plus difficile, le moins reconnu est celui de la femme au foyer. Cette femme qui fait le Ramadan et qui en plus est chargée de préparer à manger pour son ingrat de mari et ses marmots et qui ne s'entendra même pas dire « Merci maman pour ce repas ». Est-on à 100% de nos capacités physiques et intellectuelles avec le ventre vide? N'oublions pas que nous ne sommes pas dans un pays musulman, il n'y a pas d'horaire aménagé. C'est à toi, musulman, de t'adapter à la République et pas à la République de t'adapter à toi. Tiens, slogan que je vais peut-être vendre au Front National ou à Wauquiez. Vous savez quoi, mon cher Philippe, je crois que je deviens fou à cause de la faim. Il est donc temps que vous repreniez les rênes de l'émission.
Bravo pour le mea culpa. Hein.
Bien. Enfin, tour de table. Nadia, pendant le mois de Ramadan, vous êtes plus ou moins productive?
Alors, ça dépend des moments. Ça dépend des moments, en fait. Je dirais que ça dépend surtout de mon état d'esprit.
On verra ça tout à l'heure, ouais. C'est bien. Vanessa?
Bien, ça dépend aussi des moments. Et puis bon, c'est vrai qu'il m'arrive d'occuper mon temps à faire plein de choses que je ne fais pas tout le long de l'année pour moins penser que le café me manque. Voilà, le kawa.
Steve? Plus ou moins?
Alors moi, si j'ai eu, moi je suis beaucoup, j'aime bien les expériences émotionnelles correctrices, les trucs qui marquent comme ça, la prise de conscience, ça me parle pas trop. Et je me rappelle une fois, j'étais bénévole dans une très grosse ONG et on faisait des maraudes le soir de Noël et le jour de l'an. Et on a rencontré en fait un groupe de chrétiens africains qui avaient été expulsés. Il me semble que c'était le Rwanda à l'époque ou un truc comme ça. Et ils étaient à Saint-Denis. Et on est venu les aider le soir de Noël, donc des couvertures, enfin voilà, les grosses ONG, ils ont toute l'armada, on avait appelé le 115 et tout. Et ils avaient un espèce de chef, un peu, malgré qu'il était habillé en haillons, il était encore charismatique. Et le gars est venu nous voir, il nous a rassemblés comme ça. Donc c'était que des Arabes et des Noirs, hein, dans l'équipe qui voulait travailler le soir de Noël. Et il a dit, ouais, je voudrais vous parler. Et il nous a dit, voilà, moi, je suis chrétien. Je sais pas, c'était un espèce de pasteur là-bas et tout ça. C'était sa communauté. Et le reste avait été massacré, en fait, avec des machettes. Et puis, il avait sauvé ce qu'il avait pu. Ils avaient échoué à Saint-Denis. Et il nous dit, en fait, si Jésus était là ce soir, parce que c'est le soir de Jésus, il dit, c'est vous qui faites le vrai Noël. Et pourtant, j'ai conscience que vous n'êtes pas du tout des chrétiens, mais je sais que vous croyez en Jésus et tout. Et parce qu'il dit, le vrai Noël, c'est de donner son meilleur soir, entre guillemets, pour des pauvres, pour aller aider. C'est Jésus, il passe pas Noël, il regarde Netflix, il fume un joint, et puis il est chez lui, il boit une bouteille de pinard. Enfin voilà, tu vois, à mon avis, mais après, je peux me tromper, hein, ça se trouve.
Chacun son avis.
Voilà,
c'est pas le sujet. C'était quoi, voilà, la question, déjà?
Et donc, pour te... ça veut dire que je vous ai bien embarqué. Ça veut dire que
je vous connais comme si je vous avais fait. J'attends la chute.
On arrive à la morale. Non, ça m'a punchliné, et je me suis dit, en fait, c'est vrai. Que Ramadan, moi, c'est le moment où avant j'étais hyper productif, comme je fais de la lecture rapide, et c'est là où je lis à fond tous mes livres, etc.
Comment
et
tu fais de la lecture rapide?
Alors, lecture rapide, c'est lire un livre de 200 pages en une heure et mémoriser 80% du contenu. La plupart des gens se diront que c'est de la foutaise. C'est pour ça que je suis 4e lecteur le plus rapide au monde, au championnat du monde à Shenzhen, et que mon élève est numéro 1 mondial. Ah, parce qu'à force d'avoir des critiques,
on
s'est dit, allons-y, comme ça au moins il y a un titre, parce qu'en France, c'est que les titres. Donc on l'a fait, tu vois, voilà.
Les titres et les diplômes.
Les titres et les diplômes.
Avec Nadia, on va le battre, hein, Nadia. Nous, c'est notre objectif, on a décidé qu'on allait le battre.
Oui, tout à fait.
On va le mettre, mais minable.
Oui, tout à fait.
Allons-y.
Accroche-toi. Alors,
avec Nadia, on lit, hein.
Alors attends, je te fais juste la morale de l'histoire. Et donc je me suis dit que le meilleur mois, en fait, chaque année, j'allais le donner, en fait, voilà, pour l'ONG. Et donc chaque année, en général, les 15 premiers jours, je pars sur le terrain, en Afrique, au Cameroun, on tire un peu au sort, parce que sinon on va que dans les pays qu'on aime. Et en général, j'ai jamais senti de goût meilleur qu'au contact des pauvres. Et souvent, quand tu pars, il t'arrive des aventures. Bah, Tarek, la dernière fois, il a voulu aller en Somalie. L'avion, il a voulu essayer de se poser 3 fois. Ils ont passé 48 heures dans un avion, les mecs.
48 heures dans un avion.
J'ai fait 2 allers-retours Paris-Istanbul. J'ai fait Paris.
Sans descendre,
Istanbul-Mogadiscio. Je suis retourné à Istanbul. Et après, de Istanbul, je suis retourné encore à Mogadiscio. Ensuite, je suis retourné à Niamey.
Parce que l'avion est trop gros.
Mais il y avait suffisamment de kérosène.
Trop gros pour la piste. C'est une toute petite piste. La piste, elle est faite exprès pour que tu puisses pas atterrir avec un gros avion.
Mais 48 heures sans...
Regarde,
comment faire pour faire le plein de kérosène?
La morale, c'est que le ramadan avec les pauvres, ça se mérite. Et que tu supportes, et que tu trouves une solution, et que tu vas là-bas.
Mais elle est réelle, cette histoire?
Elle est réelle.
Je suis présent, je suis témoin présent. Vivant
Tarek,
de cette...
Te dire... 48 heures là-haut, non, sans faire le plein de kérosène.
Non, ils ont atterri, rechargé, et ensuite ils sont repartis. Ouais. Voilà.
Ah,
nous, une fois au Cameroun, on a distribué de la nourriture pour les pauvres, on a fini en garde à vue quand même.
Et tu sais, Vanessa, tu sais que pendant 48 heures, Tarek, il a parlé dans l'avion.
C'est pas vrai parce que Philippe était pas à côté de moi.
Quand si Philippe a été à côté de lui, il aurait rincé, il aurait parlé.
Je peux vous dire, Philippe et moi, quand on est dans l'avion, malheur.
Il y a pas de film.
Tu changes de place. Tu changes de place.
On est parti. Tu nous sers du. Sparkwater, du jus de tomate avec du tabasco. Ouais. Et c'est parti.
On décolle.
On est parti pour 24 heures d'avion.
Ça peut s'expliquer parce que le stress.
Ah c'est ça. Bon non, c'est pas le stress.
C'est pas le stress.
On est des pipelettes.
Tarek, pour le stresser, faut y aller.
Tarek, Ramadan plus productif ou moins productif?
Écoute, moi ce que je vais te dire, productif, à 100%. Moi ça fait depuis 2009 que maintenant je pars en mission sur le terrain, les 10 premiers jours de Ramadan. C'est juste un carburant essentiel pour finir Ramadan comme il faut. C'est magnifique. Et cette année, je vais me donner un challenge, parce que ça fait 4 mois que je fais le Miracle Morning. Et ben, il va falloir que je vois comment ça fonctionne le Miracle Morning pendant...
C'est quoi le Miracle Morning? Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent.
C'est debout à 5 heures du matin.
Vanessa, écoute, tu vas voir.
Debout à 5 heures du matin, et spiritualité, méditation, sport, nutrition. Et après, on mène toute cette journée jusqu'au soir.
Jusqu'au soir,
bah, activité, loisirs, tout ce que tu veux faire dans une journée. En tout cas, ça te donne la possibilité de faire énormément de choses le matin.
5h
et
du matin.
On dit que la baraka est dans le matin.
Oui. Kamel Chekat, plus productif ou moins pendant le mois du Ramadan?
Plus de par les fonctions que j'exerce. Donc, on est un peu plus sollicité pendant le mois de Ramadan. Mais pour le reste, pour ce qui est de se lever, de se réveiller, c'est le même rythme. C'est 2h à 3h de sommeil par nuit, 2h de sieste maximum.
Ouais, mais alors, ce qui veut dire que les gens qui sont fatigués, c'est une légende.
C'est une croyance.
On ressent quand même la fatigue vers la fin du mois de Ramadan, mais généralement, c'est le, enfin, en ce qui me concerne, c'est le même.
Pas vous. Metserane.
Parce qu'il faut plaider. Il faut aller au tribunal.
C'est ça le truc. Hein. Ouais. J'ai souvent la tête dans le. Mais c'est le Ramadan. On va pas prononcer.
Ah non. Alors ça, je vous rassure. Non, tout de suite. Non.
Non, je prononce pas.
En plus, Nadia va vous. Donc.
Oui, c'est vrai. Mais
pousser votre tabouret.
Alors d'abord, il faut savoir que c'est pas tant la faim. Moi, on me donne un café le matin et après, je peux manger le soir tardivement sans manger de la journée. Donc mon corps est habitué à ça. Mais c'est vrai que le fait. Alors après, c'est peut-être que psychologique. Le fait de pas avoir le café pendant X jours, honnêtement, je suis pas à 100% de mes capacités. Il m'arrive même parfois de demander des renvois d'audience parce que ce serait pas rendre service à celui que je vais défendre à ce moment-là. Donc je suis pas hyper productif à ce moment-là.
Kamel Chekat, vous qui vivez en Algérie, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie qui jeûne en majorité est productive pendant le mois du Ramadan ?
Non, pas du tout.
Vanessa,
malheureusement, non. Pendant Ramadan, vu l'esprit, on se prépare toujours pour. À tout ce qui est hostilité, je suis à jeun, je fais ce que je veux, je suis à jeun, faut pas en parler. Donc, du coup, même ceux qui sont productifs sont
en temps
plus ou moins, en temps normal, sont plus ou moins inhibés pendant le mois de Ramadan parce que, d'ailleurs, jusqu'à présent, une bonne partie de la population prend ses vacances annuelles pendant le mois de Ramadan juste pour ne pas avoir à gérer tous ces tracas relationnels avec les gens. Mais c'est, il est malheureux de le constater, oui, il n'y a pas du tout de productivité.
Oui, et puis en parlant d'Algérie, pour l'avoir constaté, d'accord, eh bien, il y a un réaménagement horaire concernant le bah oui, parce qu'il y a un ralentissement du rythme du travail, bien sûr, et notamment dans dans l'administration publique, hein, voilà.
Essentiel.
Et donc, puisque la réduction du travail pendant le mois de Ramadan est une pratique, alors je l'ai noté parce que c'est une réalité, je l'ai constaté, je l'ai vu de nombreuses années, c'est une pratique institutionnalisée par l'administration depuis toujours.
Alors attention, moi je tiens à vous préciser, en tout cas, moi je vais parler pour le Maroc par exemple. Il y a une réadaptation en fait des horaires de travail où il y a un décalage en fait, on commence un peu plus tôt le matin d'une heure pour finir plutôt le soir.
Tu dis la même chose à ce
moment-là. Non mais c'est pas une réduction, c'est
un réaménagement. Le temps de travail est le même.
Il y a une réduction quand même. Au niveau des écoles par exemple, c'est pas une heure de cours, c'est 45 minutes de cours. Et au niveau de l'administration, il y a au moins une heure qui saute. Il y a au moins une heure.
Bah, c'est la pause déj.
Non, en plus de la pause.
Nous les Marocains, je veux dire, on a battu tout le monde parce que on enlève une heure avant le Ramadan et on la rajoute après.
Au niveau du temps, c'est vrai.
Donc on peut pas faire mieux que réaménagement. Ah oui, c'est-à-dire que nous jouons avec le temps.
Pour que le jeûne se passe pas, dure pas trop longtemps, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
En fait,
pour que l'iftar soit plus tôt.
Il y a une heure qui est enlevée et puis ensuite elle est rajoutée. Après.
Donc nous, ce qu'on enlève. En termes de gestion de productivité, je pense que là on vous a battu largement.
Bon, on verra dans un instant puisqu'on a un coach avec nous.
C'est ce que je veux dire.
On a le grand manipulateur. On verra si finalement la fatigue c'est que dans la tête et comment faire de ce mois de Ramadan un mois où on va être encore plus productif.
19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ramadan et productivité font-ils bon ménage ? On en parle ce soir dans Ramadan & Co avec tous nos invités. Vanessa qui est là, Nadia El Bouga, Maître Serran, Steve Abdelkarim, le grand manipulateur, Tarek est là et c'est une des grandes signatures du mois de Ramadan, Kamel Chekat. Alors finalement, et si le Ramadan c'était pas une formidable excuse pour en faire moins ? Parce que quand même, on a quand même des gens autour de nous qui sont pas très productifs et qui disent oui mais c'est normal, c'est parce que c'est le mois du Ramadan. Kamel Chekat.
Oui mais bon, ça n'est pas propre uniquement qu'aux musulmans. Le propre de l'humain même est de se trouver des alibis, des prétextes pour ne rien faire. Et il est vrai que ce que nous remarquons, par exemple, moi je pars pour l'Algérie, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment le Ramadan, c'est une sorte de souffre-douleur. On va tout reporter sur le mois de Ramadan, on va trouver moyen à excuser un certain nombre d'indélicatesses, de mauvais comportements dus aux jeunes, alors que normalement c'est faux, normalement ça ne devrait pas être le cas.
Et c'est l'inverse, c'est que d'ailleurs, c'est que les gens, pendant le mois du Ramadan, se permettent d'avoir des comportements, des sauts d'humeur, d'être en colère, etc., sous prétexte qu'ils sont en train de jeûner.
Oui.
Ils se donnent la permission de faire des bêtises.
Oh, je voulais juste dire, j'ai eu affaire à l'administration algérienne hors Ramadan, c'est dans le domaine de l'insupportable déjà, donc je me dis, avoir affaire à l'administration algérienne pendant le Ramadan, ouais, c'est un état de guerre. C'est
non, vous dites ça parce que vous avez eu vos passeports, c'est pour ça que vous dites ça, parce que vous les avez eu, c'est pour
oui,
ça.
Oui, j'ai eu mes passeports, c'était pas le Ramadan, et j'ai galéré comme pas possible. Donc c'est dire que faire ses passeports maintenant, pendant le Ramadan, je crois que c'est injouable, les gars. Donc je dis aux auditeurs, attendez la fin du Ramadan pour taper à la porte de l'administration, en l'occurrence algérienne. Après, marocaine, tunisienne et autres, je sais pas. Mais en Algérie, c'était un petit peu compliqué quand même.
Il y a qu'à Beurre FM qu'on est plus productif.
Oui, c'est vrai, paraît-il.
C'est pas faux, c'est vrai.
Après, je pense que votre question, elle nous renvoie aussi à autre chose, c'est-à-dire quel sens on donne au Ramadan. Parce qu'effectivement, si le Ramadan est devenu, maintenant on le sait, bon, sa source est quand même spirituelle, mais il est devenu un événement traditionnel. Donc effectivement, si on part de ce postulat-là, il est normal, je dirais, que les gens réagissent comme ça durant ce mois-ci, tout simplement parce que le sens n'est pas donné à cette période-là. Et pour le coup, il faut quand même pas oublier que c'est pas un exercice facile. Ouais. D'autant plus en ce moment. On jeûne quand même quasiment 18 heures. Enfin, il faut être honnête en disant que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est une réalité biologique.
Mais les gens qu'on entend toute la journée dire qu'ils sont fatigués, et on les voit du début jusqu'à la fin du Ramadan, les gens vous disent je suis fatigué. Est-ce que cette fatigue, elle est objective, ou finalement c'est une fatigue qui est psychologique, Tarek?
Alors il y a deux volets. Il y a la fatigue psychologique parce que les gens se mettent dans leur tête que c'est le début du Ramadan, c'est le Ramadan, ils sont fatigués, ils mangent pas, ils boivent pas, en plus il fait chaud en ce moment, etc. Ensuite, après, il y a le rythme aussi. Les gens, ils ont un rythme totalement différent pendant le Ramadan. Oui, il y a la spiritualité avec les prières nocturnes, mais les gens, ils poussent un peu sur le bouchon. C'est-à-dire qu'à la sortie des prières nocturnes, normalement, tu devrais aller te coucher pour te reposer. Et les gens, ils tirent sur la corde, et vas-y, je discute, et vas-y, on bavarde, on va dans les cafés, etc. Les gens ne dorment pas de la nuit, ils dorment 2 heures avant d'aller au travail, et après, ils disent qu'ils sont fatigués toute la journée. Moi, j'aimerais dire qu'il faut commencer déjà par adapter son rythme de sommeil.
Le secret, c'est de se faire un programme, en fait, c'est ça? En gros.
Mais on est programmé, justement. Ben oui.
Mais plutôt...
Nous sommes programmés tout le long de l'année, avoir un rythme de vie avec petit déjeuner, café, machin, etc. C'est des addictions, finalement. Donc, on a ce rythme, on est programmé, on est des robots, on est comme ça. Et puis, d'un coup d'un seul, subitement, on nous envoie l'information. Enfin, moi, je parle à notre organisme, le cerveau, tout ce que vous voulez. On lui envoie l'info. Ben voilà, tout va changer pour toi, c'est fini, tout ça, terminé. Eh bien, tous ces petits plaisirs. Qu'est-ce qu'il fait l'organisme? Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il rentre en hibernation.
Qu'est-ce qu'il fait le cerveau, Kamel Chekat?
Oui, non, mais justement, puisque vous parlez de programme, et là, je suis dans une démarche qui est purement religieuse. Hein. Normalement, le cerveau du petit musulman que je suis, est censé s'ouvrir à cette aubaine, entre guillemets, qu'est le mois de Ramadan, pour me rapprocher de Dieu. À partir de là, si mon cheminement religieux est bon, normalement, mon cerveau devrait produire en surabondance de la sérotonine. On l'appelle dans le domaine de la neurothéologie, entre guillemets.
Alors ça, c'est ça. Nouveau.
C'est essentiellement les protestants américains qui utilisent ces termes, parce que là-bas, c'est la guerre et fait rage entre eux et les athéistes. Et donc, normalement, je suis dans des dispositions qui sont propices à tout ce qui est aux 3B, le beau, le bon et le bien. Donc, je suis censé travailler plus, etc. Cela dit, il est clair que d'un point de vue purement organisationnel, on est fatigué le premier, le deuxième jour, plus ou moins. Ensuite, on arrive à gérer. Mais il ne faut pas, comme le disait Tarek, il ne faut pas trop pousser le bouchon. Généralement, on a des heures de sommeil, il faut une hygiène au niveau même de l'esprit que nous n'avons pas. Mais normalement, on aurait été je parle pour toujours pour les musulmans, on aurait été plus proche de Dieu pendant ce mois, on aurait travaillé plus, on aurait fait beaucoup de volontarisme, beaucoup de bénévolat, et malheureusement c'est, ça ne se fait pas.
Alors justement, c'est,
Nadia,
oui, c'est, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir préparer le ramadan. Moi je fais le comparatif avec le mariage, hein. Il faudrait que du jour au lendemain, arrivé au mariage, on puisse maîtriser tous les tenants et aboutissants de la sexualité, du contact à l'autre. Mais le ramadan, c'est exactement la même chose. Il y a des préliminaires au ramadan. Donc, c'est-à-dire que dans notre spiritualité...
Bah, il y a le mois de Chaban pour ça.
Oui, et puis il y a des outils aussi qui sont le jeûne du lundi, du jeudi. Enfin, il y a des outils qui nous permettent justement de préparer biochimiquement et physiologiquement notre organisme.
Mais ça veut dire qu'on ne prépare pas assez, Nadia, c'est ce que vous dites.
Ça veut dire qu'on ne prépare pas assez. C'est pour ça que je reviens à la notion du ramadan chez nous. C'est-à-dire qu'il serait intéressant, sans culpabilité, de se questionner sur ce que représente le ramadan pour moi. Est-ce qu'il représente uniquement une tradition ou est-ce qu'il représente un outil? Parce que le ramadan, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil.
Oui,
c'est une école.
Rituel.
Oui, vous
une
faites
école.
Bien de parler justement de cette prédisposition au jeûne. Chez les premiers, elle commençait 6 mois avant le ramadan. Et les six mois qui suivaient, c'était des mois où on priait Dieu d'agréer les œuvres qui auraient éventuellement été faites pendant le mois de ramadan. C'est là tout le travail. C'est-à-dire que les gens, justement, quand j'ai tendance à utiliser cette phrase qui peut choquer peut-être, quand les musulmans étaient musulmans, c'est ce qui se faisait. On s'y préparait 6 mois à l'avance.
Et alors aujourd'hui, ils sont quoi, les musulmans?
Ils sont musulmans par hérédité, alors que les premiers avaient un islam réfléchi. Là est toute la question. Alors, nous sommes tous musulmans, mais comment est-on musulman à l'heure actuelle? Suis-je musulman parce que papa et maman étaient musulmans ou suis-je musulman parce que je choisis de l'être chaque jour que Dieu fait?
Steve Abdelkarim.
Alors, déjà, merci pour la... C'est quoi le truc, là?
La neurothéologie.
Neurothéologie, ça, je garde, voilà.
Ah, Steve, on va travailler dessus.
Je ne suis pas, forcément d'accord avec celui qui
bien évidemment, mais bien évidemment. Mais le terme, en termes conceptuels, m'intéresse. J'ai rencontré quelqu'un
c'est
qui fait
dans les neurosciences.
Du biohacking cette semaine aussi, du neurohacking aussi, ça m'intéresse tout ça. Mon ressenti hein, et mon analyse, mon opinion, c'est qu'il y a deux grands courants, en fait, chez les musulmans comme chez les Grecs, pendant Ramadan. T'as les stoïciens et les épicuriens. Alors les épicuriens, c'est la fiesta.
C'est Noël tous les soirs, là.
Tu sais, en fait, l'image d'Épinal avec cet homme, avec sa grappe de raisin, avec un
allongé,
espèce,
ouais.
Entouré de fémen. Fémen.
À l'époque.
Ah ouais, à l'époque.
Vanessa n'écoutait pas.
Voilà,
c'était des vestales.
C'était des vestales.
Faut pas en parler devant Vanessa.
Ouais. Ah oui, non, faut pas.
En tout cas,
effectivement, s'il a raison, elles avaient une couronne sur la tête.
Elles avaient une couronne, elles étaient habillées en bas, pas en haut. Enfin voilà, il y avait tout le truc, etc.
Bon, il y avait la couronne.
Il y avait la couronne, voilà, c'est ça.
Bon.
Il y avait les cheveux longs et tout. Et donc, ce mec avec sa grappe de raisin sur le sidali, tu vois, tranquille, allongé, comme ça, il mange, n'en plus pouvoir, tu vois.
Mm-hmm.
Et j'ai un exemple typique là-dessus. Chez les épicuriens, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai tellement mangé un soir, j'ai prié chez moi, j'ai prié assis. Je ne pouvais pas me lever, sinon j'avais des renvois, en fait, quand je... Donc là, on a le sommet des épicuriens. Et puis après, t'as
mais
les...
Qu'est-ce que c'est que ces clichés?
Voilà.
Oh là là.
Non, c'est
là
des
là
vraies
là
histoires.
J'ai des noms, j'ai des noms, Vanessa.
J'ai des noms. Et puis après, t'as les stoïciens. Alors eux, ils aiment l'islam dur, la dureté, ils aiment... Voilà, il faut
faire mal.
Ils mangent deux tomates tous les soirs.
Tu sais, c'est ce qu'on appelle les drivers en PNL. Il faut, tu dois, jamais, parce que, pourquoi? C'est que ça, en fait, voilà.
Ouais.
Et alors là, c'est l'islam dur, c'est tu dois faire tarawer, même si tu as mal au genou, même si tu transpires, tu ne dois pas bouger pendant la prière, tu ne dois pas enlever ton pull, souffre en silence. Ce qu'on appelle les drivers en PNL. Souvent, ces gens-là, ils ont un driver
non,
soit
moi,
parfait.
Je les appelle les
masos. Ouais. Les masos, voilà. Il y a un club SM aussi à Clichy, si vous voulez, les gars.
Ah non, c'est un peu pour moi.
Non, mais surtout...
Non, t'as deux grandes écoles, voilà.
J'enchaîne.
Ouais, enchaîne.
Sinon, je vais vivre un grand moment de solitude. Radiophonique. Oui, Tarek.
Alors... Non, surtout, en fait, ça nous ramène à un débat qu'on a eu un soir, un des sujets qu'on a abordé ici, c'est la surconsommation pendant le ramadan. Ce qui se passe, c'est qu'aussi, le corps, on mange énormément pendant le mois du ramadan. Et ben, qu'est-ce qui fait ton corps? Et ben, tu sollicites ton estomac, ton tube digestif, tes intestins, etc., etc. Et ça crée une fatigue. Ça crée une fatigue chronique qu'on a tous les soirs. On est fatigué. En plus, on pousse le bouchon un petit peu loin parce qu'on veille tard le soir, etc. Et c'est un cercle vicieux qui fait que, ben, le lendemain, on est fatigué et rebelote le soir.
On est fatigué. fatigué parce qu'on dort moins et qu'on mange mal.
Et qu'on mange mal et beaucoup.
Donc elle est objective cette fatigue.
Beaucoup, Philippe.
On parlait, on parlait de préparation avec tout à l'heure, c'était l'intervention de Kamel. Donc, là, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Voilà, quand tu dis pas tout à fait, ça veut dire qu'elle n'est carrément pas d'accord. Hein. Je décode le
matin. En tout cas, ton tout à fait pas d'accord, il est classe.
Ah, je me mesure.
J'étais très classe, j'étais très soyeux, très fin. C'était waouh.
Je prends beaucoup de gants.
Elle fait dans la
dentelle. Je fais dans la dentelle, absolument. Alors, là où je ne suis pas d'accord, c'est que. Parce que, à vous écouter, là, tout à l'heure, on a l'impression que. Ah, mais c'est d'une facilité, on peut. Puisqu'on se dit juste qu'on est... Bon, on veut être un bon musulman, donc on peut maîtriser ses sens, on peut se préparer un mois, six mois avant, et puis... Mais, ok, on peut le dire ouvertement. Ça, pour moi, c'est de la littérature. Parce que quand on est dedans, quand Ramadan arrive, on a beau être préparé, on se prépare. Et j'en connais beaucoup qui se préparent, vraiment. Mais, arrivé la période du mois de Ramadan, avec toutes les promesses qu'on s'est données, etc., eh bien, c'est l'instinct primaire qui prend le dessus, parce que nous ne sommes que des êtres humains et des animaux qui pensons, voilà, tout simplement. Et donc, donc l'information, elle n'est pas arrivée tout à fait. Parce que, parce que là, on est devant le fait accompli. Le ventre, il est vide. Il n'y a pas de café, sérotonine, tout ça. Ça veut rien dire pour moi. Le café, le manque, les maux de tête, parce que les migraines, il ne faut pas oublier. Hein, les migraines, tout ça.
Vanessa, mais tout de même, Vanessa, un marathonien, il ne va pas se présenter au marathon de New York sans avoir une année de préparation. J'entends quand tu dis, oui, on a beau se préparer. Finalement, quand on y est, le corps ne suit pas. Mais c'est parce que il ne suffit pas d'avoir juste une préparation mentale. Oui. Alors il y a la force mentale qui joue, mais à côté, il faut quand même une préparation physique.
D'accord.
Parce que le Ramadan, vraiment, il implique non seulement une réorganisation physique et psychique. Donc en fait, quand on voit sur le terrain, on n'a pas ces deux préparations qu'on met.
Mais moi, je suis d'accord.
Non,
mais
attendez,
Nadia,
vous êtes
Nadia,
d'accord, mais Kamel,
non, je suis d'accord. Je suis juste d'accord avec toi, Nadia, parce que ça, c'est sur le papier. Très peu de gens peuvent l'appliquer, je suis d'accord avec toi.
Non, c'est une croyance, Vanessa.
Mais quand on est dedans, c'est plus nous qui gérons. Parce qu'on a des neurones, on a un cerveau, et il y a une information qui
Vanessa,
est envoyée.
Tu parles des neurones, laisse-moi juste
faim,
intervenir.
T'as pas de café, t'as pas de
neurones. Non, Vanessa, il y a Kamel Chekat qui a levé le doigt.
Oui,
s'il vous plaît.
Je suis d'accord avec
vous. Vas-y,
Kamel. Dans la mesure où à chaque fin de Ramadan, j'ai des regrets. Le regret de ne pas avoir concrétisé mes résolutions à 100%, ça c'est tout à fait humain. Mais sauf que voilà, on vise quelque chose de très très haut pour essayer de concrétiser déjà à 50%, c'est pas mal.
Ben oui.
Mais on peut le faire, ça peut se faire. C'est, ce que je veux dire par là, c'est que être plus ou moins comment dirais-je
Tarek, là vous êtes interpellé. Alors,
En fait,
je parlais de production, productivité.
Oui, c'est ça.
Être un tant soit peu productif, un tant soit peu affable avec les gens, avoir un bon comportement, essayer de se ménager en termes de ce que je disais lors
pendant
de la dernière émission en termes de culture du tube digestif, essayer d'amoindrir la chose, peut se faire. Ça peut se faire. C'est-à-dire que, normalement, rien ne devrait s'opposer à ce que le mois de Ramadan se déroule de la manière la plus normale qui soit.
Steve Abdelkarim, pour le mot de la fin, avant une courte page de publicité.
Très rapidement. Donc moi, ce que j'invite les gens, c'est à faire un tableau. Moi, j'appelle ça le TTC. D'accord ?
Le
TTC.
C'est toute taxe comprise.
Voilà, exactement. Ouais. Quand on fait de la productivité, il te faut un tableau de bord, comme un indicateur.
Mais c'est quoi le TTC ?
Alors, j'arrive. Déjà, il te faut un tableau chez toi. Comme les petits-enfants, moi, à Noël, avant, je faisais Noël, les enfants, ils ouvrent un truc et tous les jours, tu as un chocolat et comme ça,
calendrier de l'Avent.
Calendrier de l'Avent. Voilà, moi, j'étais habitué.
Il y en a aussi pendant Ramadan.
Alors, il y en a peut-être, ils ont ça.
Ah ouais ?
Donc, tu te fais un tableau.
Vanessa !
Voilà. Tu te fais un tableau. À côté, tu te fais une feuille avec tout ce que tu veux faire pendant Ramadan. Lire le Coran, le machin, les etc., etc., etc. Et là-dedans, tu vas définir la loi de Pareto, c'est-à-dire quels sont les 20% qui vont produire 80% de la valeur ajoutée. Et ensuite, tu rentres tes 20% dans ce tableau, et ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle te concentrer sur le widely important. C'est quoi
le
widely important?
C'est-à-dire,
par exemple, pour toi, c'est le talawer ou c'est lire le corps, mais tu ne pourras pas tout avoir. C'est, si tu as plus d'un objectif dans ta vie, tu n'as aucune chance de l'accomplir.
Voilà, on reviendra dans un instant, si vous voulez bien, justement, sur ces outils que vous allez nous communiquer. Et puis, on verra comment réussir Kamel Chekat, son mois de Ramadan, sur tous les plans, le plan professionnel, spirituel et personnel.
19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est Ramadan & Co jusqu'à 20h tous les jours du mois de Ramadan sur Beurre FM avec que du lourd. Je ne dis pas ça pour vous, Vanessa, parce que vous êtes très mince. Vanessa est là.
Ah ben, t'as raison.
En présence de, en présence de l'OVNI qui est là, Nadia El Bouga, Maître Serran. Là, il y a du lourd, Maître Serran.
Oui, c'est vrai.
Il y a du très très lourd, Steve Abdelkarim qui est là. Oula. En parlant de très lourd, Tarek est là, même s'il s'est affiné grâce à Mira Satou, le coach sportif. Et puis, Kamel Chekat est avec nous, qui est neurothéologien, donc maintenant on sait. Oui. On s'est beaucoup demandé ce que vous faisiez, de quoi vous parliez avec Obama, mais on sait que vous lui parliez de neurothéologie.
Bah, je pense que Trump aurait besoin de lui. Hein.
Voilà, alors non, pour des tas de raisons capillaires, il peut pas.
Voilà. Ah oui.
Vous avez été convoqué par Trump?
Non, jamais. Bah, de toute manière, même si ça se faisait. Non, en fait, avec Obama, c'était un panel qui a travaillé avec le State Department pendant près d'une année.
C'était super. Nadia, regardez.
Mais,
j'en prends de la graine.
Non, mais Trump, non, je suis désolé. Ça serait dégradant, carrément.
Ça serait dégradant.
Non.
Pratiquement possible.
Ce serait les bas-fonds.
Tout neurothéologien qui le dit, il dit que ce serait dégradant.
Mais en tant que bon, musulman, nous devons être au secours.
Oui, mais bon, il ne faut pas tirer dans le vide non plus. Hein. Ouais. Ça servira à rien.
J'aimerais bien rencontrer Trump, vraiment. Ouais. Ah ouais.
Ce sera intéressant à débattre Trump, Vanessa.
Ah oui, vraiment.
Il aime beaucoup les blondes en plus.
Ah non, mais pas dans ce sens-là.
Envoyez votre photo, Vanessa.
Ah, le cliché.
Ce serait un plateau, une émission très, très, très bling-bling le soir,
ah non, mais
je crois.
Ce
Vanessa Trump.
Ah ouais,
tu sais qu'elle, ça n'arrêterait pas.
Elle a fait le casting pour Dynasty, Vanessa. Hein. Oh. Elle est allée jusqu'en finale. On peut pas le dire. Bien, comment réussir son mois de Ramadan sur tous les plans professionnels, spirituels et personnels? On parle de productivité. Vous avez beaucoup d'outils. Steve, toute l'année, on vous entend dire, alors si on veut, on peut, la fatigue c'est dans la tête, c'est une question de programmation mentale. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Steve ou Abdelkarim?
Les deux.
Ah d'accord.
Les deux, Steve Abdelkarim.
Moi j'aime bien les deux. Alors,
c'est un
donc,
peu comme s'appelait Oussama Bouche ou Georges Ben Laden. C'est la même chose, c'est du même.
Ah,
c'est du
ah
même
non, moi je voyais pas ça comme
ou
ça.
Ou Dr. Hill et Mr. Hyde.
Voilà.
C'est classe.
Exactement.
La classe.
Exactement.
Ah, bah écoute, moi j'aime beaucoup. C'est comme Vanessa Nasira, c'est pareil.
On est dans le même registre.
Dans le même registre.
J'ai un ami qui s'appelle Gaston Hakim, voilà, on est dans le même registre.
Ah, mais moi j'aime. C'est bien.
La question, parce que là on est parti en subconscient.
Non, mais la question c'était de savoir. Vous dites.
Ça laisse le répondre.
La productivité, etc.
Non, c'est pas ça. Je vous entends toute l'année dire que la fatigue c'est dans la tête. Ouais. Quand on veut, on peut. Donc ça veut dire que ça serait aussi simple que ça de vouloir, pour le mois de Ramadan, on est plus productif. Comment est-ce qu'on fait pour être plus productif pendant ce mois de Ramadan?
En fait, j'aime bien utiliser une image qui est assez simple. C'est, toi tu es là, sur une rive, d'accord? Et tu as une autre rive, qui est l'atteinte de tous tes objectifs. Et pour traverser cette rive, en fait, tu as un pont. Et le mec qui marche le plus et le plus vite arrive le premier, en fait, du côté de l'autre rive. Donc, par exemple, Bill Gates n'engage dans sa société pour gérer ses succursales, qui sont de l'ordre d'environ entre 1 et 135 millions, d'accord ? Il n'engage que des gens qui ont craché au moins une boîte à 1 million. Pourquoi ? Parce qu'il dit, tu n'as pas modélisé l'échec. Donc, quand l'échec il va arriver dans une de tes boîtes, tu n'as pas de récepteur pour capter tous les signaux faibles qui arrivent quand une boîte se crache. Et moi, j'aime souvent dire aux gens, en fait, qu'est-ce qui te sépare entre toi et l'atteinte de tes objectifs? Demain, c'est une excuse de perdant. C'est dur à dire, mais c'est la vérité.
Mais qu'est-ce qui te sépare alors?
Qu'est-ce qui te sépare? Rien en fait, c'est ta programmation mentale. Souvent en formation.
C'est quoi la programmation mentale? Parce que.
Regarde, en Ramadan par exemple, j'aime bien dire, les gens me parlent de tout ça, moi je leur dis en PNL, on a un outil qui s'appelle la modélisation de la réussite. Donc la modélisation de la réussite, c'est par exemple, il y a Kobe Bryant qui est un basketteur qui est absolument extraordinaire, d'accord? Il fait des choses que personne ne fait. Kobe Bryant, en fait, un entraîneur qui est très connu, il l'a rencontré quand il était jeune. Et Kobe Bryant l'appelle à 4h du matin, il dit « J'ai un peu mal à la cuisse, est-ce que tu peux venir me masser ?» Et il dit « Oui, j'arrive. » Il était dans le gymnase. Et donc, il le masse et tout, il voit qu'il transpirait déjà. Il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Bah, je m'entraîne. » Le mec, il dit « Bon, il n'arrive pas à dormir. » Et puis, il reste un peu, il le regarde jouer, il le corrige, puis après, il remonte dans sa chambre. Et le gars descend à 10h, à l'heure de l'entraînement, où tout le monde a déjeuné. Il dit « Ça va, Kobe? Alors, t'as bien dormi ?» Il dit « Quoi ?» Il dit « Est-ce que t'as bien redormi ?» Il dit « Mais, c'est-à-dire redormir ?» Bah, il dit « Tu redors après ?» Il dit « Non, je me lève tous les jours à 4h. » Il dit, ce jour-là, j'ai compris que ce mec deviendrait numéro un mondial. Juste à cause de quoi? Un nombre d'heures cumulées en plus des autres qui allait créer des connexions synaptiques. Voilà, c'est ce que Idriss Aberkane appelle les 10 000 heures pour devenir un trésor national vivant. Certains disent 50 000 heures. Voilà, c'est que tu atteins un tel niveau en fait d'agilité intellectuelle et mentale. Avec Tarek, par exemple, on est déjà arrivé sur le terrain où des gens nous présentaient des projets. On se regarde comme ça et on n'a plus besoin de se parler en fait. Instinctivement, on sait qu'il y a une magouille dans le ciment des puits. Ils ont foutu trop de flotte. La flotte va se dissoudre parce que c'est, on a tellement fait de l'audit sur des centaines, des centaines et des centaines de
C'est pas à la portée de
c'est
tout le monde.
C'est l'entraînement.
C'est ce qu'on disait. Enfin,
alors,
préparation.
Oui, mais en fait, tout le monde.
Juste, je finis, Vanessa.
Oui,
on, j'aime bien dire à mes élèves, hard choice, easy life.
Ouais, mais tu parles un langage.
Easy choice. Alors j'arrive, je vais traduire. Easy choice, hard life. Ouais. Si tu fais des choix durs, toute ta vie va être facile. Mais si tu fais des choix faciles, toute ta vie va être dure. C'est, la constance est plus forte que le talent.
Mais
t'as pas besoin de talent dans cette vie. T'as besoin d'être constant dans quelque chose et de faire une stratégie hérisson. Tu te mets en boule, t'avances.
Alors, Kamel Chekat, puisque c'est parti de où?
Oui, Mao Tse-tung disait chaque millier de kilomètres a son premier pas. Et je remarque que vous, Vanessa, c'est vous-même qui vous auto-inhibez d'entrée de jeu.
Ah, je parle pas pour moi, moi je parle.
Non, mais ce que vous
parlez des autres.
Vous m'avez posé la question. Moi, je vous disais tout à l'heure que c'était possible.
Oui,
Steve vient de le confirmer pratiquement parce que c'est des méthodes qui sont quand même qui ont donné des résultats. La preuve en est l'expérience de certaines personnalités. C'est vrai que. On peut. De toute manière, nous partons du principe, puisque nous parlons de Ramadan, qu'il n'y a pas d'islam soft et d'islam pur et dur. Il y a l'islam tout court. On s'appelle musulman, on fait ce qu'on peut. Et Dieu est assez clément pour comprendre cela. Ça s'arrête là. Donc, on fait tout simplement ce qu'on peut. Dès lors où on se dit...
Quand on fait spontanément ce qu'on peut, est-ce que c'est pas se réduire finalement à ce qu'on devrait faire?
Oui, mais généralement, quand ça part d'un bon sentiment, vous allez vous retrouver, ça va monter à crescendo au fur et à mesure.
Moi, je pense que les gens naturellement, les gens naturellement vont vers le plus facile.
En termes de religiosité ou d'assiduité au culte ou de zèle religieux, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une montée à crescendo qui est le point culminant, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan.
Dernière décade.
Oui, la troisième décade. Et la chose est parfaitement possible. Et même qu'en termes de compréhension, elle est parfaitement plausible. Il suffit juste de se dire que oui, c'est yes we can, hein, comme disait l'autre.
Barack. Il y a
Abdelkarim. Après, en productivité et en motivation, même si j'aime bien dire que t'as une astuce de motivation, je dis c'est comme la chance, par du principe que ça n'existe pas. La motivation, moi je me lève tous les matins, elle est là à 8h, point barre. Et il n'y a pas de motivation, je reste assis devant mon écran et je dis à mon corps tant pis. Voilà, on restera là 2 heures, on a 2 heures de travail. Il y a ce qu'on appelle en fait en productivité les activités autotéliques. Autotélique.
Ça veut dire
Je coune autotélique.
C'est vrai que Steve emploie des termes.
J'arrive.
En fait,
quand on aide les gens à accomplir leur légende personnelle, il y a des indicateurs en fait pour savoir qu'est-ce qui. Un arbre, il produit de l'oxygène. Une étoile, elle guide les gens dans le désert. C'est impossible qu'une vie humaine elle ait aucun autre sens que d'aller aux toilettes, que de manger, que de travailler pour un.
Absolument.
Il y a un but, il y a quelque chose derrière. Et en fait, tu as des indicateurs pour te permettre. Et en fait, l'autotélisme, c'est un indicateur hyper important. Soit je dis aux gens, quand je les aide là-dedans, quelle est l'activité que tu fais qui te demande énormément d'énergie et de temps, mais pourtant, quand tu l'as fait, tu en ressors plus chargé que avant. Par exemple, moi, ça m'arrive, je fais des journées de 8 heures de formation, mais on finit à 22h, 23h. Après, je dis toujours à mes élèves, on va au resto. Et d'autres formateurs disent, mais comment tu fais? Moi, je suis KO, je rentre chez moi, je dors et tout. Peut-être que c'est pas autotélique pour toi. Peut-être que tu le fais parce que c'est pour l'oseille, pour une autre raison. Mais si c'était autotélique, tu serais là et tu aurais encore envie de rester, de perpétuer, de rester pendant des heures. Donc, Ramadan doit être une activité autotélique. Si tu es passionné par l'islam, ça doit te recharger, ça ne doit pas te vider.
Metzeran et Nadia.
Dans le meilleur des mondes, ce que d'ici, je peux l'entendre et le comprendre. Pour gagner ta vie. Bah oui, il y a aussi cet aspect-là. C'est le quotidien des uns et des autres. On ne fait pas ça simplement, comme dirait l'autre, là, que pour des bons sentiments. Donc, c'est un élément et un paramètre à prendre
prendre en considération, et c'est un paramètre, je crois, qui va s'appliquer à 90% d'entre nous. Donc, ce que tu évoques là, c'est peut-être 10% des plus, entre guillemets, vertueux d'entre nous. Donc, c'est un schéma qu'on peut pas appliquer à tout le monde.
Maître Serran, en fait, c'est pas une question des 10%, en fait. C'est les gens qui vont faire l'effort. Tu vois, par exemple, en neuroplasticité, ce que disait.
Carré, vous dites, Maître Serran, tu vois. C'est pas un truc qui va pas?
Maître Serran, parce qu'on se fait la bise en antenne.
Maître Serran, tu vois. Bon, Maître Serran, tu vois.
Neuroplasticité.
Il avait coupé dans son élan.
Tout à l'heure, Vanessa parlait des neurones. En fait, si tu veux, quand débute le mois du ramadan, il y a des gens qui se disent dans la tête, ça va être dur, je vais avoir soif, ça va être difficile, il va falloir que je fasse des efforts. Tu te conditionnes négativement. Et en fait, tu as développé des schémas neuronaux dans ta tête qui sont difficiles. Et en fait, il faut en recréer des nouveaux qui vont. Et c'est difficile de recréer ces nouveaux. Mais tu vas les recréer en te disant, ça va être facile, etc. C'est pas du mantra, hein. C'est pas juste, tu te répètes, ça va être facile, ça va être facile, ça va être facile. Si tu fais les efforts pour que ça soit facile, tu te mets dans les conditions pour que ça soit facile, et tu vas voir qu'en réalité ça va devenir facile. Mais en fait, les gens se conditionnent négativement
de l'auto. Parce que les gens travaillent, les gens ont leurs soucis quotidiens, ils ont leurs problèmes.
Nous aussi, et
non mais non, mais attends, mais plus ou moins, tout dépend.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire que vous, je ne vous vois pas.
Tu travailles plus ou moins, Tarek, voilà.
Non mais c'est pas ça.
Je vais quitter l'antenne.
Il y en a un qui fait du coaching, l'autre qui
oh
a,
là
je
là
sais
oh
quoi.
Là
c'est des fort, là. Attends, il n'y a que ça, des donneurs ça, de leçons.
Ça,
ça, mais mettez-vous, moi je me mets à
la morale.
Mais moi je me mets à la place des auditeurs.
Perd la morale.
Vanessa, je suis commerçant.
Non, mais arrêtez, les auditeurs qui nous écoutent. Moi, je me fais l'avocat, voilà, des auditeurs. Et les auditeurs, les mères de famille, qui ont des enfants, qui ont des soucis quotidiens, au quotidien. Et t'as des mères de famille qui élèvent seules leurs enfants. Il y a des malades, il y a plein de choses à faire. Ils ont des enfants. Enfin, bref, il y a plein de. Arrête, Philippe, de faire de grands gestes.
Non, je dis que c'est la fin.
Alors, il y a tout ça. Alors, on va leur demander. Ah ben, mesdames, messieurs. Non, mais un peu de méditation. Zen, vous allez voir, tout va aller. Non, mais vraiment, vous êtes des ovnis. Voilà.
Et c'est terminé. Et c'est un métier, ça, animatrice de radio, peut-être. C'est un métier, ça, animatrice de radio. Et
encore, ouais, je me mets à la
fille,
place
elle
des
travaille
auditeurs.
À 10h, à 11h, elle travaille. Hein, bon.
Et elle se fout des coachs. Elle travaille de nuit.
Ne les écoutez pas. C'est des, voilà, ils ont des leçons à donner.
Revenez quand vous vivez. Vous voulez, on vous retrouve ce soir.
Les gagnants
Vanessa.
Trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses.
Merci. Très bien. C'est un gagnant, le winner de l'audience. Tout à l'heure, vous rejoignez l'imam Abdelali Mamounpour. Allô, l'imam.
19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.